Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Il y en a eu d'autres, des moments comme ça qui t'ont fait vibrer autant que ça ?
Ouais. Quelques mois après, on avait l'Aero 2 qui sortait de GoPro et j'allais faire un trip en Islande. Parce que j'étais en Islande l'année d'avant pour faire des photos. Hein. On faisait des déposes en héliski sur la péninsule du Troll, donc au nord, près de Dalvik. Ils venaient de commencer à faire des déposes et moi, je ne m'étais jamais fait déposer en hélico. C'était mon premier trip d'hélico. Ça, mais c'était quand le volcan avait érupté. C'est Eyjafjallajökull qui avait bloqué tout
le trafic
aérien et tout. Ouais. Et après, on devait partir en Norvège. Donc, on était bloqué en Islande parce qu'on ne pouvait pas voler à cause du volcan. Et là, je me suis dit, oh putain, il faudrait que je revienne. Et Putain, parce que je vois cette colonne de fumée noire qui montait dans le ciel. Quoi. J'ai dit, oh, ce serait ouf de sauter en wingsuit autour de ça. Bon, c'était un projet complètement loufoque et j'en avais parlé à mes contacts en Islande. Ils m'ont dit, oh, bah, écoute, non, ça serait cool, mais tu peux pas. Déjà, un, il y a plein de projectiles, il y a des rochers qui se font propulser là, tu te feras assommer par un truc. Et en plus, ils bloquent le trafic aérien autour de l'explosion. Enfin, de l'éruption, pardon, l'explosion. De l'éruption. Et, mais quand le volcan se calme, tu pourras revenir et peut-être voler en wingsuit au-dessus, tu vois. Et donc après, je prépare tout ce projet avec l'Islande. Et donc, c'est l'Office du tourisme de l'Islande avait sponsorisé le truc. Même le ministre du tourisme, parce que c'était après leur crash financier, voulait vraiment aider à faire des trucs et tout. Donc, ils nous ont payé le voyage, hélico, hôtel, tout machin. Et GoPro, on a entendu parler de ça. Ah bah écoute, on t'envoie un caméraman, ça te dérange pas. On va avoir une nouvelle caméra qui va sortir et tout. Et là, je dis, oh, ok, cool. Et donc, du coup, pareil, saut d'échauffement. On est arrivé à la grande chute d'eau de Hæfoss. C'est la plus grande chute d'eau en Islande, qui fait 150 mètres. Quoi. Et là, il y avait des gros Islandais qui nous amènent en quad et tout, machin. On traverse la rivière, tout ça, machin. Et puis d'un coup, en fait, je me retrouve au bord de Hæfoss avec aucun vent et un parachute. Quoi. Et j'avais jamais sauté une chute d'eau. Et ça me faisait flipper à cause des turbulences. Je savais pas si j'allais commencer à aller ouvrir. Alors j'ai vérifié tu vois, les turbulences, genre en lançant tu vois, des brindilles, des bouts de bois, des trucs comme ça, en crachant, on voit où ça allait, genre 20, 30 fois. Enfin, je me suis dit, bon, bah, si j'ouvre tôt, il y a moyen que je le fasse, quoi. Et ça avait été sauté une fois avant, mais je ne savais pas, en fait. Donc, c'était un peu une phase de découverte pour moi, tu vois. Ouais. Ça avait été sauté de l'autre côté, mais pas du côté de là où j'ai sauté.
Parce que la chute d'eau, ça peut changer avec l'eau, en fait, et la pression.
Ça fait des turbulences. Donc, ouais, peux. Déjà, ça crée son propre. Ses propres courants d'air.
Microclimat,
ouais. Ouais, voilà. Donc, quand l'eau tape, et surtout de cette hauteur, bah, ça crée souvent un vent ou un courant d'air qui va, qui se déplace, qui s'éloigne de la chute d'eau, si tu veux, dans le canyon, ouais. Si tu veux. Et puis après, il y a des rebords. Donc, après, ce courant d'air qui tape le rebord, ça peut créer des rouleaux, des trucs comme ça, tu vois, tu sais pas. Et le vent est un danger invisible. Donc, il faut essayer de le visualiser comme tu peux, quoi. Et donc là, je flippais, j'avais jamais sauté une chute d'eau. Et j'avais entendu parler d'un pote qui avait sauté une chute d'eau en base jump. Il m'avait dit, écoute, si un jour tu sautes une chute d'eau en base jump, atterris face à l'eau, parce qu'il y a tout le temps le vent qui est créé par la chute d'eau elle-même. Instinctivement, tu vas vouloir t'éloigner de la falaise, mais en fait, tu auras un vent de cul quoi, qui va te pousser plus vite. Et donc, tu auras un atterrissage super rapide. Donc, essaie de tourner face à la chute d'eau et te poser devant. Mais il se dit, c'est flippant. Et là, je me retrouve devant la plus grosse chute d'eau de d'Islande en parachute. Et là, je dis, bon, ça a l'air d'aller, quoi. J'ai vérifié pendant une heure, quoi, tu vois, tout. Et puis, après, j'y suis allé. Et puis, quand j'étais dans ma chute libre, enfin, en sautant de la falaise, et il y avait toutes ces particules d'eau avec le soleil, en fait, ça faisait des arcs-en-ciel. En fait, je tombais dans un arc-en-ciel, quoi. Et après, parachute qui s'ouvre. Et puis, tu vas dans le canyon. Et je me suis posé, mais pile poil devant la chute d'eau. Il y avait juste un petit bout de terre d'un mètre carré entre les rochers. Quoi.
T'as posé
j'ai eu trop de chance. J'ai glissé sur un rocher et paf, je me suis posé pile en plein milieu. Quoi. Ce saut, je ne le referai probablement jamais. Mais là, je suis devant cette grosse chute d'eau et c'était ouf. Quoi. Donc ça, c'était un de ces moments. Ouais, il y a eu d'autres moments. Bien sûr, le ski base du plus sommet du Mont Blanc. Alors ça, c'est le saut dont je suis le plus fier parce que j'ai attendu 8 ans pour le faire.
Ah ouais.
Ouais. Et puis un jour,
c'est un record mondial, je crois, non?
Ouais, c'est le saut le plus haut du monde en altitude. C'est pas le base jump le plus haut du monde, mais en ski base, c'est le plus haut. Okay. Parce que, mais c'est pas un record qui a été homologué, tu vois. C'est juste grâce au bouche à oreille et savoir ce que les autres ont fait en ski base jump. Shane avait sauté le Jungfrau, qui était à 3009, je crois. Après, j'avais sauté le Cervin. Le Cervin, c'était à 4100, je crois, là où j'avais sauté. Après, il y avait Ramon Roa, c'était un Chilien qui avait sauté, qui avait fait un wingsuit ski base à 4150. Donc, quasiment la même altitude. Non, j'avais sauté à 4002, je crois, le Cervin. Lui, il avait sauté à 4150, donc c'était juste en dessous. Et c'est lui, en fait, qui avait vérifié, puisqu'il me demandait s'il avait eu un record du monde. Et en fait, il a vérifié les points de sortie. Il a dit, ah bah non, techniquement, je l'avais grâce au Cervin. Mais là, au Mont Blanc, je l'avais mal calculé. D'ailleurs, le premier saut, j'avais sauté, je croyais que j'avais sauté à 4359, puis c'était à 4400. Exact.
Okay.
4400 mètres, ouais. Et bon, après, on peut monter plus haut, mais il y a d'autres projets. mais le Mont Blanc, c'était. Déjà, c'est une montagne.
C'est dur à organiser un projet comme ça?
Ah, c'est super. C'est super dur à organiser parce qu'en fait, t'es vachement dépendant de la météo. Et à cette altitude, il y a tout le temps du vent. Et quand tu sautes un objet, ou une falaise, ou un sérac, ou quoi, qui est court, à haute altitude, mais qui est court, bah déjà, t'as moins de densité d'air. Donc, ton parachute ouvre plus lentement, t'as moins de planer. Le sol est beaucoup plus près, donc tu as moins le temps d'ouvrir une voilure. Il faut que la neige soit stable, il faut qu'il y ait des bonnes conditions de montagne en général et pas de vent. Donc ça fait tellement de facteurs que tu...
Et tu peux le regarder d'en bas, ça ? De Chamonix, tu peux le savoir ou...
Bah tu...
Des fois, tu montes et...
Bah des fois, si t'es en bas et que les conditions sont parfaites, c'est que t'as raté le coche, quoi. T'as raté la fenêtre, quoi. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je regarde tout le temps les... Je regarde les bulletins météo souvent à travers toute la saison pour voir un peu les schémas de la saison. Parce que c'est souvent assez consistant, tu vois. Et là, l'année du Mont-Blanc, il y avait 2 semaines de haute pression et 2 semaines de basse pression. 2 semaines de haute pression, d'anticyclone, 2 semaines d'anticyclone. Et donc, du coup, il y avait 2 semaines de beau, 2 semaines de dégradé, 2 semaines de beau, 2 semaines de dégradé. Et puis après, tout le mois de mai était pourri. Alors que normalement, mai, c'est super bon si tu veux aller faire de la pente raide ou des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, comme c'était un schéma consistant tout l'hiver, le mois de mai était tout pourri, il y a beaucoup moins de chances que tout le mois de juin soit pourri aussi, quoi. Les conditions météo, enfin les prévisions étaient genre beau le matin et orage l'après-midi. Mais en fait, quand c'est souvent comme ça, c'est assez, c'est comme là en ce moment, c'est assez, t'as un peu de pluie ou c'est assez stable, c'est beau, c'est calme. Et donc t'as ces fenêtres, mais tu peux pas savoir jusqu'à ce que tu montes, quoi. Et donc en fait, j'engage un projet quand je suis à 70% sûr de la météo, parce que le temps que t'arrives, c'est là que ça sera à 90 ou 100%. Quoi. Mais si tu attends d'en savoir trop, souvent le temps que tu arrives, tu vas rater le truc. Mais après, il faut être prêt à faire demi-tour. Moi, après, il y a 50% de chances que je vais sauter et 50% de chances que je fais demi-tour. Donc c'est comme ça. Faire demi-tour, ça fait partie de la montagne. Tu sais, des fois, tu essayes un truc 3, 4, 5 fois, 6 fois pour pouvoir le faire, une fois. Et après, ce qui est triste, mais beau en même temps, c'est que ce saut du Mont-Blanc, pour l'instant, pourra être fait parce que le CERAC avec les changements climatiques, donc ça c'est le côté qui est triste, donc la glace change, hein, les CERAC changent, les crevasses s'ouvrent et tout machin, la montagne change beaucoup avec le changement climatique, mais depuis le CERAC ça a cassé et s'est retiré de 30 ou 40 mètres, quoi. Et donc du coup le point où j'ai sauté n'existe plus, c'est parti, ouais.
Okay.
Donc, ce CERAC a cassé l'été d'après, donc je l'ai sauté je pense au dernier moment possible après avoir attendu pendant 8 ans. Donc ça, c'était vraiment un cadeau de la montagne, quoi. Après, bon, c'est un cadeau, mais c'est aussi avoir la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais après, bon, aussi, c'est... Après 8 ans, c'est aussi se créer cette chance et de...
Ouais, t'y allé plein de fois, t'es monté, ça...
Mais après, j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai mon pote Alex qui m'a aidé, j'aurais pas pu le faire sans lui, quoi. Tu vois, Alex Périnet, qui est guide ici à Megève, c'est un super pote. Et putain, il m'a aidé vachement à... C'était vraiment la définition d'un guide. C'était pas seulement te montrer le chemin en montagne. C'était aussi me guider mentalement, quoi, à travers tout le truc. Il s'est occupé de tout, hein, pour l'ascension. Et quand on arrive au sommet, il dit, bon, allez, vas-y, pépère, maintenant, c'est toi. Mon boulot est fini, maintenant, c'est toi qui y vas, quoi. et il m'a aidé avec tout, quoi. Tu vois, genre, bon, après, j'ai trimballé tout mon matos, tout ça, machin, mais j'avais que à faire ce qu'il me disait de faire à la montée, quoi, tu vois. Genre, quand on est arrivé au refuge du goûter, il m'a dit, ok, fais une petite sieste là parce que tu dormiras pas bien ce soir. Il y a toujours des mecs qui se lèvent pour aller pisser, qui ronflent ou qui vomissent, qui se sentent pas bien. Tu dors plus, tu vas stresser. Et puis avec l'altitude, on dort pas bien. Là, t'es claqué après la montée, fais une sieste de 1h30. Et après, retrouve-moi dans le réfectoire, on va manger. Je fais, ok. J'ai fait une sieste de 1h30, mais j'ai dormi mais comme un loir. Du coup, je suis venu un peu tard pour manger. Je m'assois à table. Il m'avait gardé une place. Il y avait ma soupe prête. Il avait coupé mes bouts de tomes et tout. Il les avait mis déjà dans la soupe. Il avait tout fait. C'était un papa, quoi. Il m'avait tout organisé. Genre, c'est genre, voilà, je me mets mes pieds sous la table et je mange, quoi. Et puis après, il me met au lit. Tu vois, c'était génial. C'était... Non, mais ça.
T'as un espèce de fixeur ou un guide à chaque fois?
Je prends tout le temps les guides parce que, encore une fois, tu vois, je me retrouve dans des situations d'alpinisme. Ouais, je fais de la grimpe. Oui, je peux marcher avec un crampon et des piolets. Ouais, je peux accéder à une face raide.
Mais
c'est pas c'est pas mon expertise. Hein, donc, du coup.
Puis, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui connaît cette montagne-là, cette voie-là. Et...
Exactement. Et ça, je connais pas tout ça, tu vois. Donc, je connais le spot de vue, je sais où aller, tout ça, mais je connais pas toutes les nuances ou les petits détails qui peuvent faire la différence, tu vois. Et bosser avec des potes qui sont proches et guides et qui connaissent bien les spots, c'est super important pour pouvoir réaliser tes projets. Parce qu'en fait, tu vois, sur les vidéos, tu vois le mec qui saute son truc, mais en fait, tu te rends pas compte de tout le travail d'équipe qui est derrière, quoi. Et puis, c'est aussi... Tu sais, la montagne, ça peut te rapprocher ou alors ça peut créer des amis ou ça peut créer des ennemis, tu vois. T'as des mecs qui s'entendent peut-être super bien et tout dans la vie de tous les jours et qui vont en montagne et qui ne feront plus jamais de montagne ensemble parce qu'ils s'entendent pas du tout en montagne, quoi. Ou alors tu peux partir en montagne avec un pote comme tu vois, comme avec Alex. J'adore aller en montagne avec Alex, quoi. putain, on s'entend super bien. Et puis, tu parles de la vie, tu parles de tout, tu vois. Et c'est, tu sais, la montagne, en faire seul, c'est cool. J'en ai fait beaucoup, hein, seul. Et j'en fais encore beaucoup seul. Des fois, je me lève à 4h du matin tout seul et je vais me faire mon saut en base jump tout seul. C'est flippant, tu vois. Mmh. Mais c'est cool. J'aime bien cette autonomie, tu vois. Mais après, c'est vrai que aller en montagne avec une personne qui était chère, tu crées des liens qui sont indestructibles. C'est magnifique. Et après, souvent, tu te souviens plus limite de tes conversations que tu as eues à la montée que de la montée elle-même, tu vois.
Non, mais c'est vrai, tu partages un moment unique et puis il y a un projet, quoi. Il y a un but qui est un but partagé et du coup, tu vas à fond, à deux dedans et tu essaies de tirer vers le haut mutuellement tout en partageant un moment, quoi.
Donc, ouais, non, exactement. Et puis, tu vois, c'est. Mais tu vois, là, je reste chez mon amie Mélina dans son beau chalet, face, il croche. Mais tu vois, c'est aussi rester avec des personnes avec qui tu t'entends bien, un endroit où tu te sens bien. Et tu vois, souvent, je reste avec mon pote, sinon Stéphane, tu vois, avec qui j'ai fait le saut au croche. Et ouais, je pourrais me caler à l'hôtel pendant deux semaines, mais c'est plus cool d'être avec des potes, tu vois. C'est, ouais. Ça fait partie de ton expérience en montagne. C'est ces connexions qui sont super importantes, quoi.
Okay.
Et je pense que. Même si, tu vois, j'ai un côté un peu loup solitaire où je pars en montagne faire mes propres trucs et tout, mais en fait, je suis un animal social, un peu comme tout le monde, quoi, tu vois, où tu as besoin de cette connexion, tu as besoin d'avoir des amis, des personnes avec qui tu te sens bien, tu vois, c'est super important, quoi.
Bien sûr. Pourquoi tu as choisi de vivre aux États-Unis et d'y rester?
Bah, je suis
tu vois, là, moi, je t'entends parler de Megève, du Mont Blanc, de tes potes et tout. J'ai l'impression que tu fais plus de projets ici, d'ailleurs, qu'aux States, tu vois.
Aux US, pour ce que je fais, c'est plus du mini-golf. Donc, si tu veux faire des gros trucs, faut venir dans les Alpes. Non, bon, c'est pas partout. Si tu vas en Alaska, c'est sérieux là-bas. Hein. Ouais. Ou dans le Wyoming, tout ça. Bon,
je rigole.
Mais tu vas au Colorado, tu vas dans l'Utah, tu vas dans l'Oregon. C'est des montagnes qui montent très haut, mais qui démarrent très haut aussi. Donc, t'as moins de dénivelé, c'est une terre parfaite ici, hein, en Haute-Savoie, pour faire tous ces projets. Et puis souvent, tu sais, faut partir pour savoir où tu veux revenir.
Ouais.
Donc, mais après, les US, ça m'a apporté...
Ça a ouvert des portes.
Ça m'a ouvert plein de portes. C'est un pays d'opportunités. Je veux dire, t'as des opportunités aux US que t'as pas en France. Ça, c'est vrai.
T'as un exemple?
Déjà, même juste les marques, par exemple, les marques sont plus prêtes à pas nécessairement financièrement, mais à aider un jeune qu'ils connaissent pas, qui sort de nulle part et qui est peut-être un peu qui est ambitieux et culotté, et qui dit on va l'aider, quoi. En France, c'est encore assez classique. En France, tu vois, il faut faire tes preuves, est-ce que tu fais du piqué, est-ce que tu es, est-ce que tu es en Coupe du Monde, est-ce que tu es déjà établi. Enfin, tu vois, je pense que on a beaucoup de talent en France, tout ça, mais je pense que aux US, c'est encore le Far West, hein, tu vois, c'est un pays un peu dehors la loi où tu et donc du coup les marques sont allez on y va, on tête, tu vois, un peu comme l'histoire avec GoPro, tu vois, genre mon manager qui achète mon billet d'avion avec sa propre carte de crédit, quoi, tu vois. Alors là, je peux te garantir qu'il s'est fait rembourser, par contre, hein, parce que ça, c'est les à l'époque, c'était un billet d'avion pour 800 $, c'était les meilleurs 800 $ qu'il a jamais investi, quoi.
C'est clair.
Mais ouais. Tu vois, non, c'est ça qui est cool, c'est que quand j'ai déménagé aux US, tu vois, c'était toujours un peu j'ai pas déménagé pour être sportif pro, moi c'était pour pouvoir faire mes études de commerce et skier. Je voulais bosser dans le ski. Alors, j'ai eu l'opportunité de faire mes études dans le Colorado et donc je me suis pas posé la question. J'ai tout rangé. J'ai mis ma vie dans deux gros sacs de voyage et j'ai pris deux paires de skis et je suis parti au Colorado. Je ne savais même pas à quoi la ville ressemblait. Tout ce que je savais, c'est que j'étais accepté dans une université américaine et j'avais un visa étudiant. Et je suis parti au culot, quoi. Et je suis arrivé et en trois mois, je me suis retrouvé sponsorisé de la tête aux pieds, quoi. Et je me dis, putain, je fais mes études et ça y est, je suis sponsor, c'est déjà un rêve d'enfant. Et je dis, mais si je suis devenu sponsor, peut-être que je pourrais gagner ma vie en faisant ça, quoi. Mais j'ai quand même fini mes études de commerce, je travaillais à côté. Et puis, c'est ça, en fait, je faisais de la chute libre, je bossais comme assistant marketing pour la station de ski de Durango. J'étais sponsorisé par plusieurs marques, je faisais le circuit de freeride. Championnat de freeride à l'époque et après le week-end je partais au centre de chute libre aller faire 2-3 sauts pour me préparer au base jump. Donc en fait, tu vois, j'avais cette flexibilité de pouvoir créer ma vie et c'est un peu plus dur de créer sa vie en France parce que t'as une norme qui est déjà un peu plus établie, t'as un schéma à respecter et si tu veux sortir un peu du schéma, c'est pas pris au sérieux ici. T'es vu un peu comme quelqu'un de loufoque, mais pas nécessairement comme quelqu'un qui... Ça a changé, je pense, hein, aussi.
Ouais.
Mais tu vois, j'ai 38 ans. Quand j'avais 15 ans, Ouais. C'était pas comme ça en France. Genre, les choses ont beaucoup changé aussi maintenant. Parce que bon, il y a plus de... Même avec tu vois, les réseaux sociaux, Internet, tout ça, machin. Je veux dire, tout ça, ça... Tu vois un peu plus que les gens font dans le monde entier. Donc du coup, tout le monde s'en inspire. Mmh. Donc je pense que ça... Je pense qu'il y a plus d'opportunités maintenant en France que quand j'étais petit, dans le milieu du sport, si tu veux.
Ouais, dans ton...
Mais
dans ce
à l'époque, c'était, le... bah, c'était une opportunité à ne pas rater, quoi.
Ouais, c'était l'Eldorado.
Ouais, ouais, exactement. Je suis parti là-bas.
C'était... C'est là que sont créés les X-Games. Tu exactement. Vois, tu vois, c'est des... ouais. Il y a eu une culture aussi des sports... Il y a une culture des sports alternatifs de manière générale, tu vois. Tu vois, quand tu regardes le BMX, le hip-hop, enfin, le breakdance qui arrive au jeu, tu vois,
ouais.
C'est aussi une influence américaine, tu vois. De... Et quand tu vois des Tony Hawk, quand tu vois le surf, le skateboard, les sports de montagne, c'est un peu le berceau aussi, tu vois.
Ah, mais carrément,
tous viennent en France pour pratiquer parce qu'on a les meilleures montagnes du monde. Je suis un peu chauvin.
Non, mais tu as raison, je le dis. Je le rappelle tout le temps aux Américains aussi. Quand je suis à la station de ski, il faut... Alors, c'est comment ici par rapport aux Alpes? Les Alpes, c'est 100 fois mieux.
Mais là-bas, on te donne la chance, quoi. On aime les profils. Puis, je pense aussi, tu vois, ils aiment un peu plus les profils un peu généralistes ou un peu touche-à-tout, genre... Toi, tu vois, au début, tu voulais tester plein de trucs, tu voulais mélanger plein de disciplines. En France, c'est OK, tu veux faire du ski ? Bon, soit tu fais du super G, soit tu fais du free ride. Ou...
Ouais, exactement. Et c'était un peu. Ouais, enfin, même moi, quand j'étais en classe sportive ici, en ski, quand j'avais les jours fériés, je faisais vachement de snowboard, quoi. Puis après, j'allais sauter des barres avec mes skis de géant. Et heureusement, j'avais un coach qui était super ouvert d'esprit, quoi. Qui était super cool et qui savait. Capturer cette énergie ou cet enthousiasme pour pouvoir créer pas un skieur de Coupe du Monde, mais un skieur atypique qui peut faire ses trucs un peu tout seul. Et j'ai eu la chance d'avoir... C'est ça, en fait, à travers ma vie, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des... J'ai eu beaucoup de mentors qui m'ont beaucoup aidé, tu vois. Et j'avais pas nécessairement une super ambiance familiale, mais j'ai pu contrebalancer tout ça. J'ai eu la chance que ça soit contrebalancé. C'est pas moi qui ai contrebalancé, mais que ça a été... Et que ça a pu être équilibré grâce à l'influence de... personne super importante et super bienveillante, quoi. Et donc je pourrais pas être là où je suis aujourd'hui sans avoir eu toutes ces personnes qui m'ont pris sous leurs ailes, quoi.
Ouais. Mais c'est bien de le dire, tu vois, parce qu'on tout seul on peut aller vite, mais on va sûrement un peu moins loin et faire des choses moins.
Ouais. C'est ce qu'ils disent dans les Navy Seals, les forces spéciales américaines. Tu go fast, you go alone, tu go far, you go together. Yeah. c'est ça, hein. C'est super important, mais c'est vrai, moi j'aimerais beaucoup revenir ici dans les Alpes. Mais après, c'est vrai que quand tu vis une vie internationale, c'est dur d'être dans un endroit à temps plein aussi. Ouais. Idéalement, moi je voudrais faire passer 6 mois aux US, 6 mois ici. Puis, voilà. Et puis après, tu sais, j'ai un garçon de 9 ans et je parle que français avec lui. Il est fier français, il adore la France. Il est venu que 2 fois, mais il adore. Il me parle tout. La prochaine fois qu'on est en France, on peut skier la vallée blanche et tout. Mais ouais, il n'y a pas de problème et tout. Enfin, tu vois, c'est un super skieur, mais il fait vachement de skate. Mais en même temps, si je revenais en France et qu'il était dans le système scolaire français, il pèterait les plombs, tu vois. Et du coup, c'est important de. Tu sais, il n'y a pas de paradis sur Terre. Il faut créer son paradis. Donc, tu prends des petits bouts de tout ça et tu construis ton puzzle. Donc, voilà, c'est ça.
Trop, trop, trop cool. Bon, le temps tourne. Tu vois, et je sais que tu es un peu. T'arrives tout droit des US, donc je veux aussi te laisser dormir et profiter de ta soirée. J'ai quelques petites questions pour la fin. J'en ai 3, tu vois, que j'aime bien poser aux invités.
Okay.
La première, c'est de savoir où est-ce que tu te vois dans 10 ans.
Dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans, je me vois 6 mois aux US, 6 mois en France, avec ma dulcinée. Et voyager avec mon fils et dire, allez, range ta planche de surf, là, mets-la dans un sac, on va aller surfer en Indonésie. Allez, vas-y, c'est parti. C'est comme ça que je me vois dans 10 ans.
Allez.
Moi, dans 10 ans, je me vois faire ce que je fais là encore. Je me vois voler en wingsuit, je me vois faire du ski base, plus d'escalade, plus d'alpinisme, parce que je suis à fond. C'est couillon, hein. J'ai fait l'escalade quand j'étais gamin, mais là, je commence vraiment à découvrir ça à 38 ans. Je grimpe 4 fois par semaine, j'adore ça, quoi. Et puis maintenant, je peux accéder des sauts en base et tout. Dans 10 ans, en gros, je me vois une approche encore plus approfondie de la montagne et pouvoir partager ça encore plus avec les personnes que j'aime. Donc voilà. Et puis faire vachement de surf aussi à côté. Il y a l'année dernière, cette année, j'ai surfé mes premières vagues de 10 mètres sur la côte de l'Oregon. Et en surf tracté, hein, pas à la rame.
Okay.
Donc je veux pousser ça un peu plus aussi. Parce que, en fait, ouais, je vais faire du ski. Ski base, surfer des grosses vagues et faire du base jump ou de la wingsuit.
Okay.
Et puis après, partager tout ça avec mon fils.
Tu connais Mathieu Crépel?
Mathieu Crépel, ouais, de nom, mais j'ai pas personnellement. Ouais.
Non, mais lui aussi, tu vois, il a fait beaucoup de ski et lui, là, il se met à la mer, il a testé le bateau aussi.
Ouais.
Si tu testes la voile, tu vas vite être accro, je pense. Tu vois. C'est vraiment hyper addictif.
Écoute, rajoute pas un truc de plus là, parce que sinon, je vais pas y arriver. Hein.
Mais, tu vois, en discutant avec lui, il m'a dit ouais, j'aimerais bien tester un peu tout ce qui est bench jump et tout. Ah bah, il a pas encore du tout d'expérience, mais.
Ah, mais écoute, bah, mets-nous en contact. Moi,
Tu le chauffes.
Ouais, non, moi, je vais le caler. On peut aller, tu sais, j'ai fait sauter des potes en base jump qui n'avaient jamais fait du chute libre. C'est pas recommandé du tout, mais tu sais, ouais, j'aurais peut-être pas dire ça, mais ouais, si tu fais, il y a des spots, tu vois, c'est pas nécessairement safe de faire ça. Un jour ou l'autre, tu vas devoir te mettre à la chute libre si tu veux sauter des grandes falaises, si tu veux savoir gérer ton corps en chute libre, quoi. La seule façon de le faire, c'est de faire de la chute libre. Mais faire des sauts de pont, des trucs comme ça et tout. Tu vois, un mec comme Crépel qui est super à l'aise en l'air, qui surfe super bien, qui a cette notion de vitesse, qui sait s'adapter au dernier moment dans des situations qui peuvent être critiques et rester calme. Tu as plein d'expériences dans ces sports qui vont t'aider en base jump. Et tu vois, c'est la loi des 10 000 heures. Si tu veux être très fort à quelque chose, il faut faire 10 000 heures du truc. Et quand si tu as passé tes 10 000 heures en montagne, en ski par exemple, en base jump, ça va être 5 000 heures. Et puis après, si tu commences le parapente après ça et que tu sais déjà faire du base, en fait, ça va être boum, 2500. Tu vois. Et puis, en fait, tu peux réduire le truc petit à petit. En fait, c'est. Voilà, il y a une phase d'approche. Après, ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi, que tu vas balancer quelqu'un d'un pont comme ça sans savoir qui ils sont ou ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a des. Mars Dasher, il a de Red Bull, il a un programme de base jump aux US qui s'appelle Taste of Base. Et il apprend par exemple aux mecs qui font du parapente, qui n'ont jamais fait de chute libre, mais qui savent voler une voile de parapente, il leur apprend à faire du base jump sur un pont dans l'Idaho. Quoi, tu vois. Tu peux faire des ouvertures, tu peux tenir l'extracteur pour eux, voir comment ils se débrouillent. Puis après, s'ils arrivent à être stables en chute, tu leur mets l'extracteur dans la main, tu peux y aller étape par étape. Mais après, bon, bien sûr, ce n'est pas le chemin qui est du tout recommandé. Tu vois.
Ça veut dire quoi, recommander?
Recommander,
c'est. Plus sécuritaire.
Souvent, on dit voilà, 100 à 200 sauts en chute libre avant de commencer le base jump, tout ça.
Et on dit 500 sauts avant la wingsuit aussi ou...
Ouais, ça dépend des pays. Aux US, c'est 250. Moi, ouais, mon premier saut, j'avais 49 sauts. Quoi.
C'est vrai?
Ouais. C'était en chute libre, c'était au milieu du Washington. C'était un jour de pluie, un mec avait un avion qui n'avait pas de porte. Il m'a fait sauter dans la pluie. Quoi. Moi, c'était pas du tout... j'aurais pas parlé de cette histoire. Parce que, non, c'était complètement... Mais tu vois, encore
pareil... Raconte vite. C'était
à l'arrache avec un mec qui s'appelait Eldon Burier. Et malheureusement, il est décédé depuis, mais c'était un ancien des forces spéciales américaines et tout. Et puis, il m'a eu faire des sauts en ski base, en base jump et tout, classique. Et il m'a dit... j'avais déjà, je sais pas, une centaine de sauts en base jump. J'avais que 49 sauts en chute libre. Quoi. Donc j'avais déjà 150 sauts à peu près. Et il m'a dit, ouais, vas-y, on y va, je t'emmène en wingsuit. Et bon, j'avais une toute petite wingsuit, c'était pas un gros truc et tout. Donc ouais, j'ai fait un saut, c'est bien passé. Et puis voilà quoi.
Mais tu peux sauter sous la pluie en wingsuit?
Normalement, t'as pas le droit de sauter quand il pleut. C'était vraiment à l'arrache quoi. C'était. on est FM plus même. On a sauté quoi, 1200 mètres en plus, parce qu'on pouvait pas aller plus haut parce que les nuages étaient trop épais. Tu vois, la couverture, ouais, bref. Alors, c'était.
Si tu fais un saut accompagné en France, je crois qu'il faut ouvrir à 1500 en chute libre. Donc vous étiez à 1002 déjà.
Ouais, bah écoute, on va pas chipoter. Hein.
C'est les États-Unis, tout est permis. Hein.
Non, c'est pas ça, mais c'était un peu au milieu de nulle part. Et puis c'était. Tu sais, j'ai fait à peu près 2-3 ans de saut un peu hors la loi, comme ça, tu vois. J'avais un pote qui avait un avion, j'avais un parachute de base, j'avais même pas de parachute de secours, j'avais pas d'altimètre, j'avais une wingsuit, et puis voilà, balance-toi, quoi. Et le mec du coin, c'était même le shérif, quoi. Donc tu vois, c'était. Ils s'en foutaient, quoi. C'était. Mais en même temps, voilà, bon, c'est ça qui est beau en base jump, c'est que je pense que la chute libre a tellement été réglementée dans plein de pays, hein, surtout en France, en Australie, bon, aux US, bon, t'as beaucoup de règles aussi, mais c'est des.
En Suisse aussi, non?
En Suisse
aussi. C'est là que t'as un des meilleurs spots au monde.
Ouais, t'as des super spots, mais t'as moins de. C'est moins rigide là-bas, si tu veux, mais t'as plus, je parle au niveau des règles de l'aviation civile, tout ça, ouais, machin, ouais. Et tout ça. En France, c'est assez réglo et tout, tu vois, et je comprends pourquoi ils font ça, parce que ça apprend aux gens à faire les choses bien et à avoir moins d'accidents. mais en même temps, ça contribue à diminuer un peu cet esprit d'aventure du sport, si tu veux. Quand tout est trop normalisé, bah c'est...
Ouais, ils essayent de cadrer des gens un peu foufous.
Ouais,
qui,
voilà.
Qui veulent
après,
repousser
le truc,
les
c'est
limites,
quoi là. Moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est super foufou. Oui, j'ai fait des trucs foufous, mais je suis pas du tout un mec... je suis pas foufou du tout, je suis super réfléchi, quoi. Alors, même si, voilà, j'ai pas nécessairement appris les choses de la façon avec le plus de sécurité possible, je réfléchis toujours vachement à ce que je fais, quoi.
Donc, du coup, c'est... J'ai l'impression que tu t'es calmé aussi.
Ah, je me suis je me suis calmé, je me suis pris un gros carton en 2013. Alors, j'ai dû apprendre à me calmer. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est aussi c'est marrant parce que, ouais, je me suis calmé parce que même en ski, en base jump, quand tu commences au début, enfin, personnellement, moi, je voulais vraiment y aller à fond. J'avais tellement cette envie, cette hargne, ce désir, quoi. Et je l'ai toujours. Mais maintenant, ce que je recherche, c'est pas faire le foufou en montagne. Ce que je recherche, c'est la sérénité, quoi. Et je me sens tellement bien et tellement posé en montagne, quoi. Et en fait, je profite beaucoup plus de ce que je fais en montagne maintenant que je me sens plus posé. T'en profites pas vraiment quand tu fais un saut et tu dis « Bon, bah, j'espère que ça va marcher, quoi. » Tu vois ? Enfin, tu sais que ça va marcher, mais tu sais que si tu... C'est une approche qui est tellement engagée que c'est pas nécessairement une recette idéale pour la survie, quoi. Mais c'est aussi nécessaire de passer par là pour développer l'expérience qu'il faut pour pouvoir faire des choses très engagées. Et quand tu es passé par là et que tu as fait ça genre 100 fois, 200 fois ou plus, et bah tu t'établis un peu une méthodologie, quoi. Et puis une fois que tu as ça, et bah tu sais à quoi t'en tenir et tu sais comment faire les choses bien. Et puis et surtout, tu n'hésites pas à faire demi-tour. Et maintenant, je suis dans une phase complètement différente, quoi. Mais tu vois, j'adore parler de ces histoires parce que c'est des moments qui me sont chers, que je n'oublierai jamais, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai que approcher la montagne avec le plus de sérénité possible, mais je me sens tellement bien, quoi. Je me sens posé tout en envoyant du gros, quoi. Et c'est génial parce que tu t'as vraiment dans un état d'omniprésence, quoi. Tu te sens vraiment genre... Tu te sens... Ouais, t'es... Bah, c'est la recette de la transcendance, quoi. C'est, assez... ouais. C'est magnifique. Donc, ouais, non, j'en profite plus que jamais maintenant. C'est venu avec une approche complètement différente, quoi.
La toute dernière question, c'est de savoir c'est qui l'homme et la femme que tu me recommandes d'aller interviewer, justement pour parler de montagne, pour parler de performance, pour parler de prise de risque. Je dis un homme et une femme parce que j'aime bien la parité sur le podcast, tu vois, d'avoir un invité femme. Une invitée femme et un invité homme. Que dans le sport, la parité n'est pas assez respectée.
Mais non, mais c'est... Non, c'est vrai. C'est... Alors, femme, tout de suite, je pense à Liv Sansoz.
Elle est venue.
Elle est venue déjà. Ah, ouais. Liv, merde. Tu l'as déjà
vue. Tu la connais ?
Bah oui. C'est une pote, ouais. Elle est super, Liv. On a sauté Liger ensemble et tout. Elle faisait du bass avant, tout ça.
Ouais, mais elle m'a raconté qu'elle a arrêté parce qu'elle a vu trop d'amis partir autour d'elle et que ça l'a fait souffrir, quoi.
Ouais, c'est dur. Ça, on peut en parler dans un autre podcast, hein, mais ouais, c'est le base.
On se revoit dans deux ans.
C'est pour moi. Alors, une autre. Donc, sportive française.
Francophone, c'est possible.
Francophone, si possible.
Mais ouais, Liv, incroyable, quoi. Elle a plus de 50 ans en plus, non ? Ou... Non, peut-être un peu moins.
Non, je sais plus. Elle a la 40. Ouais, c'est 45, 000. Je pense, mais.
Avec le défi des. Ouais, le
mais
défi
là, elle passe son.
Fait,
elle passe son. Son brevet de guide et tout, tu vois. C'est... Puis elle est tellement posée en montagne et puis elle est costaud, quoi.
C'est incroyable.
Ouais, c'est une,
super... une force de la nature.
Ouais, elle est
l'épisode
génial.
Est génial.
Super, il faudrait que je l'écoute. Après, bah, c'est une Française que j'ai rencontrée juste une fois, mais je suis sûr qu'il y a des trucs. Je sais pas si tu as interviewé Justine.
Dubon ? Ouais. Non, pas encore.
Ah bah, ouais, bah Justine. Bah, voilà. Justine, voilà. Puis, moi, je suis un grand fan de surf. Ouais. Voilà, c'est parti.
T'as, incroyable.
Ouais. Ouais, carrément. Et puis, je suis sûr qu'elle a des bonnes histoires. Et après. Homme, bah écoute, je pense avec son, c'est un bon pote et puis on a skié en Islande. Enfin lui était en snow, moi j'étais en ski, mais on est tous les deux sur le team de Thule. C'est quelqu'un que je respecte énormément dans la montagne, qui est super drôle, mais super, qui a plein d'histoires, qui est super posé. C'est une force de la nature. Bah Xavier Delerue, quoi.
Ok.
Xavier, ouais. Xavier, Justine.
Il faut que je le chope.
Ouais, bah écoute, ouais.
Trop cool.
Ouais, je te mettrai en contact avec Xavier et puis c'est. Ouais, c'est quelqu'un que je respecte à fond. Et quand je suis allé en Islande avec lui, on a skié le couloir que Andreas Franzen avait skié pour la première fois, je crois, en 2014. On devait faire des pauses, mais les hélicos étaient bloqués sur les îles de Faro en Norvège parce qu'il y avait trop de météo pourrie. On avait cette montagne devant l'endroit où on restait. Et on avait toutes les caméras de sa machin. On dit, mais on avait crampons, on avait piolé, on va skier ça, c'est parfait, quoi. On n'a pas besoin d'hélico. Et donc on est monté, ça fait 3 heures de rando. Et là, on s'est skié un couloir je sais pas, de 600 mètres en 3 minutes et demie, quoi. Et c'était génial. Mais et alors Xavier a skié juste le couloir adjacent. Moi, j'ai skié la voie principale dans l'As, mais Xavier a skié un couloir qui avait jamais été skié. Mais en fait, il s'est retrouvé en haut d'une cascade de glace qui faisait 50 mètres au milieu, quoi. Et il avait pas de broche avec lui et on avait une corde et tout. Donc du coup, il n'avait pas pu faire un rappel et donc il a traversé dans l'autre couloir pour me rejoindre là où j'étais. Et il avait sur glace bleue, crampons piolets, pas encordé. Et puis, il a traversé comme si rien n'était, quoi. Et là, je suis content. J'ai dropé dans l'autre couloir et pas dans celui-là parce que moi, je me serais chié dessus. Et là, ouais, Xavier, il arrive et tout posé. Il fait « Ah !» Et puis moi, le ski était super. Il y a plein de slough et tout. C'était super bon et tout. Et puis là, je retrouve Xavier dans le couloir et je fais il fait « Ouais, ça a l'air bon, tu vois, ça allait. » Il fait « Ouais, ouais, c'est un peu tendu, mais ça allait, nickel. » Pour lui, c'était nickel, quoi. Mais après, on arrive en bas, il fait « Ouais, non, t'aurais détesté. Hein. » Parce qu'en plus, j'avais qu'un piolet et tout. Et là, c'était horrible, quoi. Mais ouais, pour lui, c'était juste, normal. Ouais, c'était juste une journée normale en montagne, quoi. C'est, ouais, non, il est... Tu vois, en parlant de poser, grâce à l'expérience et aux années dans le truc, je pense que Xavier est vraiment un exemple parfait pour ça, quoi. Et puis, il ride, mais il est solide, quoi. Il va tellement vite, mais j'ai du mal à rester avec lui, quoi. Quand on arrête, il va à fond de boîte, c'est un costaud, quoi. Et ouais, ce serait cool de l'entendre sur ton podcast, quoi.
Trop cool. Putain, je me suis régalé, Mathias, pendant une heure et demie.
Merci.
C'était un peu long, on a fait durer le plaisir, mais
désolé, je parle.
C'était vraiment cool. Je sens qu'on aurait pu durer une autre heure et demie, mais on se fera ça un peu plus tard ou dès que tu as un prochain projet. Peut-être juste avant de se quitter, où est-ce qu'on redirige les auditeurs vers ton compte Insta? Peut-être tu as un film ou un projet que tu as envie de leur partager
Alors, je bosse sur un film. J'ai un film aux US, Super Frenchy, mais il n'est pas distribué en Europe.
Okay.
Mais donc là, je bosse sur un documentaire français avec Ivresse Film, qui a filmé mon saut au Mont Blanc avec Antoine Friou. On était au collège ensemble quand on était gamin. Et donc maintenant, je skie et lui, il filme. Et donc, on bosse sur un documentaire ensemble. Ça va prendre un peu de temps. Je ne sais pas quand ça sera prêt. Mais en attendant, les gens peuvent rester aux aguets sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est Super Frenchy Official sur Insta, @SuperFrenchyOfficial. Et sur Facebook, c'est ouais, Super Frenchy, Mathieu Giraud, Super Frenchy. Et donc voilà quoi. Et puis je posterai tout le temps des trucs sur mes tripes, tout ça, machin, ou si j'ai des films qui sortent, trucs comme ça. Et puis voilà quoi.
Ok. C'est cool. Bon bah écoutez, trop cool. Les auditeurs, allez suivre le contenu de Mathias. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis devenu accro. Donc merci infiniment pour ce moment et d'avoir pris le temps. C'était vraiment un régal. Et puis, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. À bientôt.
Merci à toi. À
ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.